E-Radio, l'invité de la rédaction, Anna Battistella.
Bonjour Karim Sergier, cinéaste syrienne et réalisateur du film Les Pactes d'Alep, un concours au Festival des Trois Continents. Un documentaire sans filtre sur la révolution syrienne vécue et filmée à quelques centimètres du champ des batailles. Un portrait d'Alep de 2011 à 2016 raconté en première personne par un révolutionnaire atypique, un étudiant qui la révolution rend journaliste.
Le film pour moi c'est pas juste un documentaire qu'on regarde dans la vie une fois et on l'oublie après. Et pour moi c'est quelque chose qu'on peut garder pour le futur. Pour les autres générations qui vont prendre de l'expérience de qu'est-ce qui se passe en Syrie. C'est les pactes, le titre de la film. Si on fait un pacte avec quelqu'un de proche, est-ce que c'est bien de garder cet pacte, de rester jusqu'à bout? Ou quelquefois, c'est mieux de casser les pactes.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées à filmer?
Le grand problème qu'il m'arrive, c'est de trouver les pourcentages qui sont acceptés d'être filmés. Tout le monde en Syrie, avec l'histoire de la régime, de les dictateurs, ils ont peur d'être filmés car ça va être dangereux pour eux, pour ses proches. Donc prendre une décision d'être un pourcentage dans un film, c'est un grand choix. Et à cause de ça, finalement, j'ai choisi moi-même d'être un pourcentage dans le film. Mais j'ai essayé de trouver une façon pour faire des petites relations avec les citoyens. Les situations amicales et ça m'a aidé beaucoup parce que j'étais des citoyens comme les autres, donc jour par jour mon visage était connu par les personnes de la rue. Si je suis allé à la boulangerie de prendre les pains les matins, donc ma caméra elle devient une partie de mon personnalité et ma corps. Et si quelqu'un m'a voir sans les caméras, ah, elle est où ton caméra? Pourquoi elle est bah, avec toi? Donc c'est comme mon troisième main.
Vous disiez qu'être un ancien prisonnier ou journaliste fait de vous une personne de confiance, c'est-à-dire?
Moi, j'étais prisonnier en 2011 pendant une manifestation à côté de l'université d'Alep. J'étais en train de filmer les manifestations. J'étais arrêté par les polices de la régime de Bachar al-Assad. Beaucoup des activistes syriens, ils sont postés sur les Facebook et Twitter pour ma soutien. Et j'ai passé une semaine dans la prison. Et après, mon nom, il était un petit peu connu dans le monde de la révolution. C'est comme un clé. Ah, tu es en prison, ça veut dire que tu es quelqu'un qui soutient la révolution, on boit ta confiance, ça facilite les chemins de filmer aussi.
Vous créez un groupe de journalistes, une petite rédaction qui malheureusement ne dure pas longtemps. Vous dites parce qu'on n'avait pas l'exercice à la liberté. Qu'est-ce que signifie cela?
C'est une bonne question. En général, avant la révolution et pendant une longue période, en Syrie, on n'a pas le droit de créer des NGO, par exemple. On n'a pas le droit de rencontrer de plus de 3 personnes sans permis de la régime. Ils ont le droit de nous arrêter si on est, par exemple, dans un hôtel. 10 personnes, on discute sur un sujet politique. C'est interdit à faire ça. Les façons de parler en liberté, sans être peur, c'était pas existant avant la révolution. Quand on a créé les groupes, notre but, c'est faire les régimes tomber et aussi montrer à le monde d'extérieur qu'est-ce qui se passe en Syrie pendant la guerre. Mais finalement, chacun, il a son vie personnelle. Chaque personne, en général, croit qu'il est son avis, il est bon. Et à cause de ça, on n'est pas resté longtemps.
Est-ce que l'être journaliste vous a aidé à être accepté par les groupes des combattantes à lesquels vous vous êtes unis pour filmer?
Pourquoi peut-être quand j'ai fait un reportage pour un télé par exemple, ça leur aidait pour dire ok on est fort, on est héros, donc peut-être ça aide, oui.
Comment les avez-vous approchés? Les connaissez-vous déjà ou c'était une rencontre fortuite?
Il y a plusieurs citoyens qui sont devenus armés. Par exemple, il y a un pourcentage dans le film qui s'appelle Zaim. Il était tailleur de vêtements. Mais avec la révélation, il dit « Je vais défendre ma ville » avec l'idée pour moi des Che Guevara. On a toujours regardé les films, l'histoire de Che Guevara. Donc beaucoup de personnes en Syrie, avec l'armée libre, ça a commencé avec ça.
La révolution m'a fait un cadeau, vous disiez, m'a donné les frères que je n'ai jamais eu, Zaim. Lui, un couturier qui est devenu combattant, moi, un étudiant devenu journaliste. À quel moment votre vie a basculé pour tous les deux dans ce sens-là?
Zaïm, il m'a touché beaucoup. Il essayait toujours de défendre de moi. Si quelqu'un m'a parlé mal, si quelqu'un lui dit non, tout film bas, il vient non. Laisse-lui faire comme il veut. C'est la révélation, c'est la liberté. Il parle avec son groupe ou l'autre groupe. Ok, nous, on prend de l'arme. Lui, il prend son caméra. Et à cause de ça, je lui senti comme une partie de ma famille.
Au contraire, la relation avec votre famille d'origine se détériore de plus en plus, tandis que vous vous engagez avec l'armée libre. Sur elle, vous vous exprimez ainsi. J'avais-vous ma famille comme un microcosme à l'image du régime, c'est-à-dire?
Je pense que partout le monde, et les cultures, quelquefois, ça limite la liberté de les enfants. Toujours, notre baron se voit devient un médecin, ingénieur, avocat, journaliste. On a de l'expérience, donc on va choisir pour toi. Toutes les familles, toujours, non, c'est pas bien de participer à leur relation, c'est dangereux. Peut-être ils sont de raison, mais moi, personnellement, je suis libre. Donc c'est le but de la révélation, d'être libre, de tomber amoureux à quelqu'un. Même les familles, elles n'acceptent pas. Pour ça, je dis, les familles, elles sont comme les régimes. Les régimes, elles ont envie de contrôler tous les détails de notre vie.
Vous dites que Allah Akbar fait partie du langage commun, que tu y crois ou pas, tu les prononces pour tout, même au football. Mais quand les armes ont pris trop d'espace dans la révolution, je me suis aperçu arrêter de les dire.
Je l'arrêtais à les dire parce qu'elles deviennent comme des choses vraiment religieuses. Ça veut dire quelque chose d'autre. Ça veut dire, ok, on va tuer peut-être quelqu'un d'autre. Avant, c'était juste pour dire, ah, ok, c'est bon, on arrive. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça change. Et à cause de ça, j'arrête. Parce que moi, j'ai en bas envie de faire mal à quelqu'un d'autre.
Dans votre documentaire, il est impossible de ne pas remarquer deux grands absents. Les femmes et les militaires étrangers.
Les femmes, c'était très compliqué. De personnalité dans le film pour accepter à tourner. Il y a les professeurs de l'école de Injalout qui fait un atelier de 10 ans pour les enfants et malheureusement après l'école est attaquée. C'est compliqué aussi peut-être avec les cultures de la ville. C'est pas facile d'accepter d'être filmé comme une femme.
Quel rôle la révolution confie aux femmes?
C'est son choix. Par exemple, il y avait un groupe de femmes qui ont fait un groupe d'armée libre. C'était presque à la fin de 2012. Elles sont restées jusqu'à 2014. C'est des groupes de snipers.
Et les militaires étrangers? On ne les voit jamais?
Dans la ville d'Alep, il n'y a pas de militaires étrangers. Donc c'est l'armée libre contre l'armée syrienne et l'armée de la Russie et l'armée de l'Iran. Et plusieurs groupes de milices, comme milices de Hezbollah, de Liban, et de milices aussi religion de l'Irak.
Pourquoi alors la révolution a-t-elle failli?
Quand la révolution elle commence, en 2011 et en 2012, on était marché tout droit. Mais après, on est fait zigzaguer. On est bave suivre vraiment notre but, la liberté. Tomber les régimes. On est prendre le long chemin, on accepte les soutiens de l'extérieur et si tu vas prendre des soutiens, tu vas devenir contrôlé par les personnes qui vous soutiennent. Tu deviens comme un salarié et les révélations, c'est pas comme ça. Tu dois pas être salarié pour faire une révélation. Révélation, ça être avec l'espoir, avec le corps.
Il y a eu des autres erreurs? À votre avis?
Il y a beaucoup d'erreurs. Les problèmes de religion, d'ethnique, tous ces problèmes, bien sûr, c'est des erreurs. On doit oublier tout ça. On devient citoyen, n'importe quel Dieu qui on croit pas, c'est pas un problème.
À la fin du film, une sensation de trahison envers votre peuple anime tous les combattants et les survivants, dès qu'ils comprennent que la défaite est imminente. Pourquoi précisément des trahisons?
Pour moi, personnellement, quand je fais un pacte avec quelqu'un, je regarde jusqu'à bout. Donc si à la fin je vais dire « Ok, je vais rentrer chez moi à la Bouest », si je vais rentrer, ça veut dire que je vais faire un deal avec les régimes, je vais faire les propagandes, sinon je vais être tué. Donc non, à quoi ça j'étais préféré de quitter la Syrie vers l'inconnu.
Les pactes pour vous étaient soit réussir dans la révolution et rester à Alep, soit mourir dans l'effort. Et vous, que ni l'un ni l'autre ne s'est produit, pour vous c'était une trahison? C'est ça.
C'est ça, exactement.
À un certain moment, vous vous dites, la caméra ne me suffit plus. Je voulais une arme pour changer le monde. Laquelle?
C'était le moment après les bombardements de l'école. Il y a presque 35 enfants tués par un bombardement de la régime. Ça m'a touché beaucoup. Donc, j'étais senti à la même sentiment de la personne qui les prend de l'arme, vraiment.
Quelle place a aujourd'hui le journalisme dans les conflits et surtout dans votre vie?
Pour moi, être journaliste, c'est pas le but. Et à cause de ça, je suis arrêté d'être journaliste. Et maintenant, j'ai pas envie de retravailler. Même j'avais beaucoup de boss qui m'ont proposé à travailler. Mais pour moi, je préfère être honnête avec moi-même. Et malheureusement, il n'y a pas des journaux ou des agences ou des télés qui sont honnêtes avec leur-même. Chaque télé, il y a des politiques qu'ils suivent, mais je ne trouve pas des télés qui montrent toute la réalité.
Et ça n'aurait pas une occasion pour vous pour montrer qu'est-ce que c'est le vrai journalisme et la vérité?
Oui, mais c'était compliqué aussi parce que j'avais proposé, par exemple, quand j'étais à la blousière reportage, la fille d'étudiant. Pendant les guerres, il y a des normales vies aussi, il y a des bonnes choses, il y a des histoires d'amour, et ce n'est pas toujours acceptable.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.